Donc le thème qui m'a été assigné ce soir, c'est le pardon dans la vie conjugale, dynamique de l'amour, en s'appuyant sur le très beau passage de la première épître aux Corinthiens qu'on a entendu dans le petit temps de prière, et notamment cette petite phrase, « Il, c'est donc l'amour, la charité qui vient de Dieu, supporte tout, fait confiance en tout, espère tout et endure tout. » Alors, on va y revenir dans un instant. Alors, je vais vous parler de 5 choses différentes. L'expérience des blessures en couple, ça vous en savez plus que moi. Je vais vous donner un petit outil tout bête que certains peut-être connaissent mais que peut-être beaucoup ne connaissent pas, et je vais vous dire pourquoi c'est important. Donc ce sera le deuxième point. Je l'ai appelé le couple met à nu son propre enfant intérieur. D'où sortent les blessures dans le couple? Qu'est-ce que vous, sur quoi vous vous disputez? À cause de quoi vous disputez? Je vais vous donner un petit outil, vous allez voir, tout à fait intéressant. Voilà, ça c'est le point 2. Le point 3, ça va être l'impossible guérison des conséquences du péché originel. On n'arriverait jamais à être un couple parfait qui ne se dispute pas. Quatrième point, ça va être l'appel en couple à la miséricorde divine. Et alors le point, l'apothéose, le bouquet final, je vais vous donner une petite lumière théologique sur la raison pour laquelle le bon Dieu veut que vous vous pardonniez sans cesse. Parce que ce n'est pas fini un jour, quoi. On s'engueule, on se demande pardon, puis 2 jours après, ou 1 semaine après, ou 2 semaines après, ça recommence. Donc le pardon comme dynamique d'amour. Alors je vous cite par rapport à ce cinquième point ce que dit Peggy, qui n'est pas du tout théologique mais qui est génial, Charles Peggy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, se pose la question: pourquoi est-ce que Dieu permet que quand nous nous confessons, nous continuions à pécher? Et Peggy dit cette chose absolument extraordinaire, il dit: parce que Dieu veut que nous fassions l'expérience continuelle de sa miséricorde. Si on péchait une fois, que Dieu nous pardonnait une fois et qu'on n'y revenait plus, ce serait terminé, quoi. On se regarderait tous en se disant « Waouh, t'as vu ce qu'on a réussi à faire tous les deux ?» Et le fait qu'on soit constamment obligé de demander la miséricorde de Dieu, eh bien ça nous rend dépendants de faire cette expérience, dépendants de Dieu pour faire cette expérience que, comme dit Peggy, 20 fois de suite nous tombons et 20 fois de suite nous faisons l'expérience que le Christ vient nous donner la main. Et alors ça, en couple, vous allez voir que ça a un sens théologique, il y a une raison dans la sagesse de Dieu, je caricature un chouïa, pour laquelle il faut que vous vous engueuliez, pour que vous puissiez vous pardonner et qu'en vous pardonnant, vous réalisiez dans le mystère de l'Église quelque chose d'absolument incroyable, d'une manière telle qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Donc on a besoin, non pas que vous vous disputiez, mais l'Église a besoin que vous vous pardonniez. Et je vais essayer de vous montrer, il y a un enjeu absolument passionnant et extraordinaire de la tendresse de Dieu à votre égard, qui se réalise dans l'acte du pardon conjugal. Mais pour arriver à ça, il faut déblayer un peu le terrain. Alors je vais déblayer le terrain avec vous avant. En introduction, 3 petits points justes. Je vous rappelle un fait banal dont vous avez tous entendu parler, le synode sur la famille extraordinaire, le synode extraordinaire des évêques sur la famille qui a eu lieu à Rome en octobre, qui a sorti un document final, qui va être travaillé toute l'année dans les conférences épiscopales et dans certains diocèses, et qui va donner lieu à un synode ordinaire en octobre prochain. Donc pendant un an, l'Église réfléchit sur la famille. Dans la famille, il y a aussi le couple. Et vous faites partie de ce mystère de la famille. Je suis devant une petite sainte famille, un peu kitsch, mais tout à fait mignonne. Vous voyez, la sainte famille qui se prépare à accueillir l'enfant Jésus, ben, c'est un peu ce que vous êtes tous. Et une famille religieuse, c'est aussi une famille jeune. Hein. Jeune, la sainte famille. Vous êtes tous appelés à accueillir l'enfant Jésus au milieu de vous. Alors, vous voyez, moi, j'ai été très marqué par la crèche familiale. On avait les Santons de Provence et on avait son mouton qu'on avançait. Et quand on était sage, et moi mon mouton il était toujours un mètre derrière celui de mes 4 frères et sœurs. Donc j'étais traumatisé toute ma jeunesse par mon mouton qui faisait des bonds géants les 3 derniers jours pour essayer d'arriver à la crèche le 24 au soir avec les autres, mais qui partait quelquefois dans le sens inverse même. Ça m'est arrivé plusieurs années de prendre le chemin inverse de la crèche. Donc voilà. Donc soyez prudents quand vous éduquez vos enfants à avancer leur mouton, ça peut être très traumatisant. Mais je m'en souviens encore 40 ans après. Donc voilà, premier point d'introduction, les 2 synodes sur la famille. Vous restez au cœur, chers frères et sœurs, au cœur des préoccupations de la Sainte Église, parce que vous êtes un trésor pour l'Église, et c'est ça qu'on va regarder aussi ce soir. Il y a un deuxième point un peu plus douloureux dont je vous fais part, qui fait partie aussi de mon désir de partager avec vous un peu cette réflexion spirituelle et théologique autour de la famille. Ma petite expérience pastorale, je suis prêtre depuis 26 ans maintenant. Chaque année à Troussure, depuis que j'y suis, depuis 2010, nous accueillons, j'ai compté puisque j'étais l'économe pendant presque 2 ans, nous accueillons chaque année environ 400 couples de fiancés et 300 couples pour des retraites. Oui, on accueille chaque année à peu près 700 couples à Troussieux, ce qui est quand même pas mal. Et ma grande tristesse, dont je vous fais part ce soir, et la réflexion sur le pardon en couple en fait partie, c'est de voir que les couples qui viennent nous voir en week-end ou pour un accompagnement individuel et qui sont en situation difficile, eh bien, quand nous les recevons, ils sont déjà en situation très difficile. Ils sont déjà en situation plus que limite. Et ça, alors ça veut dire peut-être que nous ne sommes pas les premiers interlocuteurs des couples qui vont pas bien, ça je veux bien le croire, mais la question c'est est-ce que vous l'êtes vous? Et est-ce que nous savons, nous chrétiens, quel que soit notre état de vie, nous qui côtoyons des couples, et vous êtes des couples, donc vous côtoyez forcément votre propre couple et puis d'autres couples, est-ce que nous savons être une porte ouverte pour un début de dialogue lorsque des couples souffrent? Et donc, la question du pardon en couple, elle joue un très grand rôle, et ce sera mon deuxième point. Et puis, le troisième point de cette introduction, le mariage comme outil d'évangélisation. L'état de vie du mariage qui est le vôtre, parce que le synode sur la famille s'est recentré continuellement sur le côté positif de la famille. Vous êtes des familles, vous êtes des couples, vous êtes le lieu privilégié où s'apprend, où se fait l'apprentissage de ce que c'est qu'aimer. Ce que vous vous donnez l'un à l'autre, et aussi bien sûr à vos enfants, dans l'ordre de l'amour, ça les construit pour toute la vie. Ce que vous leur donnez pas, ou les bourdes que vous faites, ça peut les abîmer un peu beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout. Et donc, voilà, votre mariage est un lieu d'évangélisation, et je le dis souvent aux fiancés qui viennent à Troussieux. Pour moi, vous êtes des partenaires de notre travail sacerdotal absolument essentiel. Le nombre de couples qu'on prépare au mariage qui sont venus à une préparation au mariage par vous, parce qu'ils ont rencontré un couple qui vivait sa foi discrètement, et puis en devenant des amis, ils ont posé quelques questions, et puis progressivement, ça leur a ouvert le cœur. Ils n'étaient pas croyants. Aujourd'hui, on reçoit à Troussieux tout, vous imaginez pas, quoi. Des juifs et des chrétiens. Des musulmans, enfin, un couple, il y en a un qui est juif et l'autre qui est chrétien. Une musulmane et un chrétien, ou le contraire. Donc, on accueille toutes sortes de couples. Alors, ce n'est pas la majorité, bien sûr. Mais des couples qui ont souvent été mis en chemin par des couples comme vous. Soit par la parole, soit par le témoignage. Et donc moi, je vous dis que vous verrez au ciel, pour moi, le ciel, ça sera, vous voyez, un peu comme, je ne sais pas si ça existe encore, quand j'étais étudiant, il y avait dans le parc d'exposition de la Villette, il y avait le cinéma La Géode, où on avait pratiquement le cinéma sur toute la coupole de La Géode. Et le ciel, ça sera un peu comme La Géode, avec une immense mosaïque à l'intérieur, où chacun de nous, on aura notre petite parcelle de mosaïque, notre petit caillou, et autour de nous, il y aura un peu le jeu des sept familles, des sept couleurs, de tous les gens qui auront prié pour nous, et de tous ceux pour lesquels on aura prié. Vous voyez, on verra dans le ciel, dans l'éternité, la responsabilité qu'on a eue sur la terre de tous ceux qui ont prié pour nous et de tous ceux pour lesquels on a prié. Et bien à ce titre-là, votre vocation conjugale, elle est tout à fait essentielle pour la sainteté de l'Église, et on va le voir. Premier point, l'expérience des blessures en couple. Je cite mon ami Aristote, qui est un vieil ami, puisque j'ai eu la chance en époque de faire un petit travail de doctorat sur ses œuvres, donc qui a vécu de 384 à 322 avant Jésus-Christ, c'est un peu un frère aîné, hein, pas dans la foi, il vit avant le christianisme. Il écrit dans son Éthique à Eudème, dans le livre 7, une petite phrase tout à fait passionnante, que je vous lis, qui n'a rien perdu de son actualité. « Il n'y a pas d'ami sérieux sans épreuve, sans mise à l'épreuve. L'ami n'est pas l'affaire d'un seul jour, et il faut bien du temps pour construire une amitié. » Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, où tout doit se faire à toute vitesse, dans l'immédiat, « De là vient ce proverbe bien connu, continue Aristote, du boisseau de sel. C'est-à-dire qu'il faut avoir mangé un boisseau de sel, traduction par mes soins en allant chercher dans une encyclopédie des mesures grecques, un boisseau à l'époque d'Aristote, c'est 8,64 litres. Et avec la masse volumique du sel, ça fait 10,663 kilos de sel. Il faudra manger un boisseau de sel avec quelqu'un avant de répondre de son amitié. C'est qu'il ne faut pas simplement que l'ami soit bon d'une manière absolue, il faut encore qu'il soit bon pour vous. Sans cela, cet ami ne deviendrait pas votre ami. L'amitié prend du temps. Voilà dans quoi s'enracine votre amitié conjugale. Alors, au taux actuel des besoins nutritionnels d'un Européen avec 3 grammes de sel par jour, en répercutant les 10 kg 666, ça fait 3554 jours à 2 repas par jour, soit 9 ans et 9 mois de vie commune avant de se faire un ami. Sachant en France que le pic de divorce est d'à peu près de 6 ans, 27 mariages pour 1000 en France divorcent vers la 6e année, c'est la tranche d'âge qui divorce le plus. voyez, pour tout ça, je fais exprès de rassembler des chiffres qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, notamment pour vous donner un petit signal. Et le petit signal, c'est que la plupart des couples qui divorcent ne prennent pas le temps, n'ont même pas pris le temps d'avoir construit ensemble un couple. Alors merci pour ceux d'entre vous qui êtes mariés depuis longtemps, merci pour ceux d'entre vous qui êtes jeunes dans le mariage, merci pour ceux d'entre vous qui s'accrochent pour continuer le chemin. Mais voilà, ça c'est une petite réflexion d'Aristote très intéressante pour dire « s'aimer, ça prend du temps ». N'ayons pas peur, et le pardon dans le couple, il s'enracine dans ce devenir du couple humain qui ne va pas être un couple sain en 24 heures. Alors on pourrait trouver un tas d'arguments sociologiques pour expliquer ce taux de divorce en Europe ou en France, etc. Selon Aristote, le bonheur est une activité de l'âme selon la vertu. Alors ça ne vous parle pas dans les mots, mais dans la réalité ça vous parle tout de suite. Le bonheur, ça n'est pas un état pour Aristote. On pourrait dire avec des mots modernes, le bonheur c'est un engagement. Le bonheur de ma vie dépend de l'investissement que je vais y mettre. Je ne suis pas heureux, je deviens heureux en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir heureux. Le bonheur rend l'homme responsable de son destin pour Aristote, de son destin individuel, évidemment en couple et en société. Et alors, le point intéressant, c'est que voilà, le mariage met en jeu deux personnes, deux individus que la tradition européenne a appelés des personnes, c'est-à-dire avec une individualité tellement absolue que, à vue humaine, c'est impossible que vous vous entendiez bien dès le point de départ. Moi, je n'ai jamais marié un couple qui m'a dit « à nous, on se ressemble en tout, quoi ». Moi, j'ai tout le temps la question « vous croyez qu'on va y arriver parce qu'on est tellement différents ?» J'aurais dit « mais vous êtes tous tellement différents. Sur les 6 milliards d'êtres humains, s'il y a 3, ou 7 milliards, s'il y a 3 milliards de gens qui sont mariés ou qui vivent en couple, je pense qu'il y a 3 milliards de couples qui sont hyper différents. » Et donc, ces différences, elles peuvent être le lieu d'un apprentissage, d'une vie commune qui est hyper exigeant parce que ça demande du temps, un dépassement de soi, on va le revoir dans le deuxième point, beaucoup de courage, et puis bien sûr, pour les chrétiens, la grâce de Dieu. Donc vous voyez, si on le dit de manière un tout petit peu amusée, ce projet du mariage, il est à la fois naturel et pas naturel. Il est à la fois ce qui est le plus naturel dans le cœur de l'homme, construire une réciprocité homme-femme, malgré toute la théorie du gender dont on pourrait parler pendant des heures, parce qu'elle est très idéologique, il reste un appétit naturel de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme. Aristote va même dire que le désir de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme, c'est une participation au désir d'éternité de l'homme qui sait qu'il est mortel. C'est quand même pas mal, 4 siècles avant le christianisme, d'avoir réussi à dire ça. On ne veut pas mourir, il y a quelque chose en nous qui ne veut pas mourir. Eh bien, dans le fait de donner la vie, de transmettre quelque chose qui va être transmis à son tour, eh bien, il y a ce désir de ne pas simplement vivre cet anéantissement de tout soi-même qui est la mort. Deuxième point, le couple, dans ses blessures, dans ses souffrances, dans ses disputes, met à nu au quotidien son propre enfant intérieur. Alors la question, vous voyez, avec ce devenir de deux personnes qui sont de toute façon hyper différentes, il y aura forcément des frottements, des frictions, des difficultés, des ajustements, des aménagements. Certains vont appeler ça des compromis. Comment comprendre toutes ces dimensions d'auto-éducation et d'éducation mutuelle qui font partie de toute relation humaine en général et de toute relation conjugale en particulier? Parce que cette forme de vie conjugale qu'est la vôtre, c'est celle où vous partagez le plus d'éléments. Vous voyez, en prenant les deux extrêmes à chaque fois, celle du corps et celle du cœur, celle des émotions et celle de la connaissance, celle du projet de vie commun et des moyens quotidiens pour le réaliser. C'est pour ça que chez les anciens déjà chez Aristote, et puis dans toute la tradition qui va suivre, le mariage, l'amour de l'homme pour la femme, il a une qualité particulière parce qu'il a une intensité particulière. C'est une forme de vie où vous partagez ensemble, j'allais dire, le plus de ce que deux personnes humaines peuvent partager. Alors, il y a d'autres manières de vivre l'amitié que l'amitié conjugale, bien sûr. Mais à cause du don des corps qui est source de vie, à cause du projet de vie conjugal, à cause de la responsabilité éducative sur les enfants, et puis de l'entité familiale qui se crée dans la crèche et dans toutes les crèches que vous êtes quand vous accueillez la vie, et je vois plusieurs mamans et couples qui se préparent à accueillir la vie, ben vous êtes toutes des petites crèches vivantes en train de préparer une famille qui se constitue autour de vous deux comme conjoints d'une manière unique. Alors, je vous cite un psychiatre américain qui s'appelle Eric Berne, B-E-R-N-E, qui a développé dans les années 40-50 pas mal d'outils
Et il a développé un petit outil, vous le retiendrez toute votre vie une fois que vous allez avoir compris ça, il a développé un petit outil qui sont les différents états du moi. Et c'est beaucoup plus intelligent que le freudisme, parce que c'est pas du tout tordu, et c'est aussi tout à fait compatible avec une anthropologie, une vision de l'homme chrétienne. Et Eric Berne développe la structure de la personne humaine, et vous allez voir que ça va vous rendre plein de services pour vos disputes conjugales. J'ai une tante qui fait des collections de poupées russes, donc je n'ai pas osé lui demander de me passer une collection de ces poupées russes qui sont rares ici, mais qui valent beaucoup d'argent. Imaginez trois poupées russes à l'intérieur l'une de l'autre. Vous êtes chacun de vous, nous sommes chacun de nous, pas que vous les couples. Toute personne humaine est composée de trois poupées russes qui sont inscrites l'une dans l'autre. La plus petite poupée russe, celle qui est au milieu, c'est ce que Eric Berne appelle l'enfant. La poupée russe qui est autour, c'est celle qu'il appelle l'adulte. Et celle qui est autour, c'est celle qu'il appelle le parent. Et Eric Berne dit, donc il a développé une réflexion autour de ça qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui est utilisée dans le coaching d'entreprise, dans plein plein d'outils, aussi en psychologie, et aussi en psychanalyse, par certains courants de la psychanalyse. Et Eric Berne explique qu'une relation d'adulte, c'est une relation qui se structure entre deux adultes. Quand en moi, c'est l'adulte qui réagit en face de la réaction adulte de l'autre. Et toutes vos disputes de couple reposent sur le fait que quand vous vous disputez, eh bien, il y en a au moins un des deux qui n'est pas dans sa posture d'adulte. Il est soit dans la posture d'enfant, monsieur rentre du boulot, crevé, madame a eu les enfants toute la journée, peut-être que madame rentre du boulot aussi crevée qu'elle a en plus les enfants le soir, et chacun attend de l'autre d'être bichonné, qu'on lui souhaite la bienvenue, etc. C'est pas votre adulte qui attend d'être choyé, qu'on lui dise mon chéri ou ma chérie, as-tu passé une bonne journée? C'est l'enfant en vous. Et si l'autre ne réagit pas à ce désir d'enfant, eh ben vous partez au quart de tour, quoi. Ouais, tu t'occupes jamais de moi, ouais, t'es bien comme ta mère, enfin bref, je passe tous les détails, vous connaissez mieux que moi les petites disputes qui peuvent devenir des grosses blessures. Voilà, et ça, c'est pas évident de découvrir en soi quand est-ce que nous avons des réactions d'enfant qui ne sont pas des réactions d'adulte. Et puis si on n'est pas adulte et qu'on n'est pas du côté de l'enfant, l'autre côté, c'est qu'on peut être parent par rapport à son conjoint. Tu devrais faire ça comme ça marche pas dans ton boulot, c'est parce que tu fais pas bien ça. Ou les enfants sont insupportables, c'est parce que toi-même tu es excité toute la journée. Ma chérie, si tu étais plus calme, les enfants seraient bien plus calmes. Là, vous êtes en parent, vous êtes en train de regarder l'autre et de dire à l'autre ce qu'il doit vivre. Et bien ça ne va pas faire grandir votre conjoint. Alors, il y a toute une mise en route de ça, une mise en œuvre. C'est des petits outils qui sont là hyper simplifiés, qui sont beaucoup plus intelligents chez Eric Berne, mais c'est très intéressant parce que si vous avez des rengaines de disputes conjugales ou de choses où vous n'êtes pas d'accord, eh bien, essayez de comprendre qui en vous réagit à la situation ou à ce que vous a dit l'autre de pas gentil ou de pas délicat sur le vif. Et vous allez voir que ben, c'est souvent pas l'adulte, celui qui est capable de prendre sur lui, de répondre objectivement, de dire j'ai pas compris ce que tu me disais, est-ce que tu peux me réexpliquer? Parce que je voudrais pas interpréter tes mots en les transformant, etc. quoi. Moussa Nabati, qui est un psychologue parisien qui a écrit un livre chez Fayard en 2008 qui s'appelle Guérir son enfant intérieur, dit la chose suivante: la rencontre entre deux êtres au sein du couple, vous allez entendre ça, parce que si on l'entend jusqu'au bout, ça vous pose une énorme question: pourquoi vous êtes marié? La rencontre entre deux êtres au sein du couple échappe à la volonté consciente des adultes. Ce que lui va dire, c'est que ce n'est pas l'adulte en vous qui a choisi votre conjoint quand vous étiez fiancé. Donc cette rencontre, elle s'élabore et se décide au contraire au niveau des inconscients entre le petit garçon et la petite fille en eux. C'est bien l'enfant intérieur. Donc votre enfant intérieur, c'est pas simplement quand l'analyse transactionnelle, Eric Berne parle de l'enfant intérieur, c'est pas du tout dépréciatif au sens moral, c'est pas infantilisant du tout, hein. C'est simplement une manière d'être qui est en posture. On pourrait dire la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, il a besoin de recevoir beaucoup et il donne pas beaucoup. Pensez à vos adolescents pour ceux qui en ont, hein, ceux que je connais qui ont des adolescents. Ça arrive que ça fonctionne comme ça, un ado. Et puis, le passage à l'âge adulte, c'est quand on se rend compte qu'il faut donner, même si on ne reçoit pas beaucoup. Et ça, c'est un passage existentiel qui est très coûteux, quoi. Voilà. C'est bien l'enfant intérieur qui, en ange gardien protecteur, vous voyez, il y a une fonction positive de l'enfant intérieur, oriente le sujet vers des rendez-vous constructifs ou le pousse à l'inverse en fantôme persécuteur dans des cul-de-sac, vers des assemblages, il n'est pas tendre, sadomasochistes et autodestructeurs. Donc celui qui en vous a choisi votre conjoint, c'est votre enfant intérieur qui avait besoin d'être comblé dans un lieu et qui va découvrir dans le cœur de l'autre, dans le cœur de l'enfant intérieur qu'est l'autre, ce qui va pouvoir le combler. Oui, c'est une énorme question, très belle, à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'on n'a pas le temps. Mais la question, jusqu'où vous êtes libre de choisir votre conjoint? Est-ce qu'on est vraiment libre de choisir son conjoint si c'est l'enfant intérieur inconscient en nous qui va aller à la pêche de celui ou celle qui va pouvoir combler en nous tel ou tel désir profond de ce que nos parents ne nous ont pas donné ou au contraire de ce qu'ils ont éveillé en positif et qu'on a besoin de faire grandir? Alice Miller, qui est une philosophe et psychanalyste polonaise et juive, qui a aussi travaillé sur l'enfant intérieur, qui se penche sur les enfants maltraités par leurs parents, écrit quelque chose que je voudrais transposer avec vous en une phrase sur votre vie conjugale et surtout sur les disputes conjugales, puisque si on parle de pardon, le pardon il porte sur ce qui a blessé. La plupart des parents, écrit Alice Miller dans son ouvrage La connaissance interdite, affronter les blessures de l'enfance, paru chez Aubier en 1988, dit la chose suivante. La plupart des parents qui maltraitent leurs enfants, c'est pas votre cas, mais c'est l'exemple qu'elle prend de ce qu'on répercute à la génération suivante, ne sont guère conscients de leur détresse. Ils n'éprouvent pas non plus de sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont connu que des traitements analogues dans leur enfance et qu'ils ont appris à considérer cela comme juste. Des parents qui sont violents avec leurs enfants, il y a toujours une racine de violence en eux. Moi, je le vois comme prêtre, en accompagnant des couples où il y a des violences conjugales, où il y a des violences parentales, eh bien, je peux confirmer ce diagnostic de manière tout à fait explicite. Alors, si on transpose ça à votre situation de couple, la plupart des conjoints qui maltraitent leurs conjoints, vous voyez, la maltraitance, là, je l'entends à un sens général, ça peut être dans une dispute, ça peut être une parole dure, ça peut être un manque d'attention. Je ne parle pas d'abord de maltraitance physique, même si malheureusement, ça peut arriver. La plupart des conjoints qui maltraitent leurs conjoints, ça c'est ma transcription de ce qu'Alice Miller dit, ne sont guère conscients de leur détresse. Ils n'éprouvent pas non plus de sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont connu que des traitements analogues dans leur enfance et qu'ils ont appris à considérer cela comme juste. Ce que je vais vous dire par là, c'est que très souvent, les raisons pour lesquelles vous allez vous disputer, vous n'en avez pas conscience, c'est pas parce que le tuyau d'arrosage a mal été rembobiné dans le jardin ou parce que un enfant a laissé traîner, je sais pas quoi, sa raquette de tennis dans le couloir. Ça, c'est la circonstance, c'est le catalyseur, ça n'est pas la cause. Ce que ça met en cause dans votre cœur quand vous allez reprocher quelque chose à votre conjoint, c'est quelque chose de plus profond. Et ce plus profond, eh bien, il faut aller le chercher un petit peu, quoi. Alors j'ai envie de dire, une dispute conjugale récurrente ne peut être source de nouvelle vie pour un couple que si elle passe par différentes phases. Bien sûr, il faut se pardonner dans l'instant. Ça c'est facile, enfin c'est pas toujours très facile, mais ça se fait relativement vite. Après, cette dispute, quand elle revient et que c'est un peu toujours la même chose, il faut qu'elle soit comprise, non seulement dans ses circonstances, qui sont souvent superficielles, mais également dans ses racines. Et si vous n'allez pas un peu à la pêche des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord de manière récurrente, vous ne pouvez pas avancer. Ça n'est pas votre dispute ou votre blessure, la blessure que vous infligez, ne sera pas source de changement. Et puis, troisièmement, il faut que cette dispute ou cette difficulté, elle soit posée devant Dieu, et je rajoute, en toute connaissance de cause, pour qu'il en fasse un nouveau chemin de croissance conjugale et personnelle. Si vous confessez juste de vous être disputé avec votre conjoint, et que ça revient tout le temps, vous ne grandissez pas. Le bon Dieu vous donne sa grâce, mais ça recommence deux jours après. Quelle est la leçon de vie que vous allez tirer de cette difficulté? Qu'est-ce que vous allez transformer dans votre manière d'être vous pour l'autre pour que la dispute puisse être un degré moins de la fois suivante, que le pardon soit un degré plus profond et que peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, un an, vous ne vous mettiez pas dans la situation qui va provoquer cette difficulté. Troisième point, l'impossible guérison des conséquences du péché originel. Ne rêvons pas d'un couple, ne rêvez pas de couple parfaitement harmonieux. Ne rêvons pas d'une communauté Saint-Jean, d'un prieuré Troussu où tout le monde s'entend bien. Moi, quand j'entends des couples qui se disputent, je rigole, enfin pas devant eux évidemment, je rigole par devers moi-même, parce que je me vois avec mes frères. Une fois, je recevais un couple qui était en grande détresse et qui arrive un week-end à Troussu l'année dernière en me disant « Nous, on s'est engueulés toute la semaine dernière. » Alors je leur dis « Eh ben nous à Troussu aussi. » Et il y avait une dispute entre les frères parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur quelque chose qui en soi n'était pas absolument essentiel mais qui était important pour la vie quotidienne. Et je leur ai dit, vous savez, l'expérience des disputes en couple, nous on ne vit pas en couple, nous on vit à plusieurs, mais l'expérience des disputes que vous vivez en couple, on les vit aussi. Et la nécessité du pardon, on la vit aussi. Donc il y a quelque chose dans cette vie commune que vous partagez à deux et que nous partageons à plus que deux qui est finalement très proche, même si les états de vie dans lesquels nous sommes et les choix que nous avons faits les uns par rapport aux autres ne sont pas les mêmes. Alors, je fais d'abord l'expérience de la limite de l'autre qui revient sans cesse. Ça, oui. Toute votre vie, vous allez faire l'expérience que l'autre a des limites. Vous n'avez pas épousé le bon Dieu. Et il n'y a que la petite Thérèse de l'enfant Jésus, vous vous souvenez, qui au moment de sa profession perpétuelle a fait un faire-part, comme un vrai faire-part de mariage. Le Verbe, le Père éternel, Dieu le Père éternel, a la joie de vous faire part du mariage de son fils, le Verbe éternel, avec mademoiselle Thérèse Martin. Et puis de l'autre côté, monsieur Martin, et pas de Légion d'honneur, rien du tout, chrétien de son état, et madame Martin ont la joie de vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec le Verbe de Dieu. Donc vous voyez, un mariage un peu disparate, quoi. C'est pas la différence de la Légion d'honneur ou des palmes académiques, c'est un peu plus que ça, quoi. Donc il y a que Thérèse qui va oser dire que cette espèce de disproportion radicale peut être subsumée par l'appel de Dieu, quoi. Mais entre vous, vous n'allez jamais vous dépêtrer du fait que l'autre est limité. Moi, j'ai entendu des jeunes couples, après un an de mariage, me dire avec beaucoup d'humilité, ben voilà, nous on a compris qu'on ne pourra jamais combler le cœur du conjoint. Parce qu'il y a une soif qui ne vient pas de l'autre dans mon cœur, me disait le mari. Et elle me disait... Je sens bien que mon mari a beau faire tout ce qu'il peut pour me rendre heureuse, il y a quelque chose en moi qui a soif de plus. C'est vrai ça. Et ça c'est vrai à tous les âges, alors on peut l'exprimer de 36 manières différentes évidemment, mais n'ayez pas peur de ça. Que votre conjoint, il doit être une source de bonheur pour vous, je vous le souhaite de tout cœur chaque jour de ma vie, mais il y a une incomplétude, comme diraient les mystiques, radicale dans le cœur de mon conjoint qui fait qu'il n'est pas à l'intérieur de moi, et qui ne peut pas sentir comme moi les choses que je sens, les blessures où j'ai besoin d'être consolé, les encouragements dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin, avec l'intensité dont j'ai besoin. Donc, je suis constamment confronté à ça. Et peut-être que les deux petites paraboles de l'Évangile, la paille et la poutre, voyez, sont une invitation récurrente à vous, les couples. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans le tien. Est-ce que ça n'est pas une invitation de Jésus à tous ceux qui vivent la vie commune, c'est-à-dire à vous et à nous, de ne pas d'abord regarder les défauts de l'autre, qui existent, mais de regarder d'abord ce qui en moi doit être changé pour aimer davantage l'autre. Parce que c'est toujours facile de voir ce qui ne va pas en l'autre. C'est beaucoup plus difficile de voir en soi ce qui ne va pas. Ça demande une humilité, ça demande une vérité, ça demande un courage. Je discutais cet après-midi au téléphone avec une de mes amies thérapeutes, à qui j'ai envoyé un couple en très très grande difficulté, et qui me disait, alors lui, il était dans une fermeture totale aujourd'hui, il ne voulait absolument pas entendre les questions que je lui posais pour essayer de lui faire prendre conscience des mécanismes de défense qu'il a développés pour ne pas mourir intérieurement, parce qu'il a eu une vie très difficile. Et elle me disait, eh ben, j'ai un mal fou à l'aider à prendre conscience que c'est lui qui doit se rouvrir. C'est pas sa femme, c'est pas ses enfants. Sa femme est en train de le quitter, ses enfants veulent plus le voir, tous ses collaborateurs de travail, bon, il est à la retraite maintenant, ne veulent plus le voir, les gens dans le village duquel il habite trouvent qu'il a un sale caractère, etc. Et il n'arrive toujours pas à se remettre en cause. Et il n'a pas 25 ans. Et elle me dit, j'ai l'impression de sortir du ring cet après-midi. 5 heures de thérapie, elle me dit, je suis épuisé. Il a dit non à tout ce que je lui ai proposé, quoi. Alors, je dis, courage, tu vois, on va y arriver. Donc, la paille et la poutre. Osons nous remettre en question. Vous voyez, et moi, c'est une des paraboles que j'utilise pour mon travail sur l'Église. On a beau dire aux autres de se convertir. Est-ce que nous, dans l'Église latine, on n'a pas aussi des lieux de conversion radicaux? Vous voyez, aller à Saint-Pierre de Rome avec un regard protestant. La raison de l'émergence de l'Église protestante avec Luther, c'est la querelle sur les indulgences. Le pape Léon X faisait payer aux chrétiens, après cette conférence, il y a confession individuelle, et je vous vends des indulgences. Je vous vends un petit papier, une brique, pour construire le prieuré de Troussure, pour agrandir le prieuré de Troussure. Et une brique, ça coûte 100 euros. Donc, confession égale 100 euros. Eh bien, la cathédrale Saint-Pierre de Rome, la basilique Saint-Pierre de Rome, elle est construite comme ça. Et donc un protestant qui va aujourd'hui à Rome, il voit le fruit de la querelle des indulgences dans toute son horreur. Donc vous voyez, il ne peut pas aimer l'église de Rome, un protestant. Est-ce qu'on peut se mettre 2 minutes dans la peau d'un protestant? Vous allez sur le site du Vatican, avec un œil protestant, vous êtes terrifié. Vous voyez un immense pape et un tout petit Esprit Saint. C'est quand même bizarre, il y a le grand rond, il y a le pape François au milieu, et puis l'Esprit Saint est dans un coin. Et est-ce que nous aussi, on n'a pas... pour entrer dans ce dialogue avec nos frères et sœurs séparés, aussi à regarder leur paille, mais à regarder peut-être nos poutres. Et il y en a des poutres aussi chez nous. Je peux vous dire qu'ayant travaillé 17 ans sur l'unité de l'Église et sur l'histoire de l'Église, un frère de Troussure me disait l'autre jour, Je pense que l'acte de foi est de plus en plus difficile quand on voit tout ce qu'il y a eu de compliqué dans l'histoire de l'Église. Et je dis, ouais, ça c'est vrai. Parce qu'on se rend compte que le Saint-Esprit conduit l'Église, mais à travers des trucs mais qui sont innommables. Des franciscains qui, au XIVe siècle, ne voulaient pas signer une bulle pontificale disant que Jésus avait possédé des biens mobiliers et immobiliers et que ça c'était écrit noir sur blanc dans l'Évangile, ont été brûlés en 1378 sur la place publique, sur le marché de Perpignan. Pour ne pas avoir voulu signer une bulle qui racontait une idiotie théologique, écrite par un pape. Vous voyez ? C'est juste un exemple, ça n'enlève rien à la sainteté de plein d'autres papes, mais voilà. Donc, cette paille et cette poutre, c'est aussi une très bonne manière de se dire, quand je ne comprends pas comment tu fonctionnes, quand tu me blesses, est-ce qu'il y a aussi en moi des lieux qui te blessent ? Deuxième parabole, qui est peut-être encore pire, le serviteur impitoyable en Matthieu 18, 21, 35, vous savez, le serviteur qui doit, je ne sais plus combien, 2 millions de pièces d'argent à son maître, qui lui remet sa dette. Et en sortant de chez son maître, le serviteur saute sur un deuxième serviteur qui lui doit de l'argent et n'accepte pas que l'autre qui ne lui doit pas beaucoup ait un délai de rémission pour payer sa dette. Eh bien, nous sommes dans cet état-là. Dieu a donné son Fils pour nous et nous ne sommes pas capables de nous pardonner des choses qui, à l'aune de ce que Dieu a fait pour nous, sont microscopiques. Et comme nous sommes petits, il y a un mot qui n'existe qu'en français, qui n'existe dans aucune autre langue européenne, nous sommes pusillanimes. Et nous sommes petits joueurs, quoi, comme diraient vos ados aujourd'hui. On est tellement facilement ça. Eh bien, il y a des paraboles de l'Évangile qui nous rappellent que ça, on peut en sortir aussi, par le haut. Alors comment ? On va y venir. Cette impossible guérison des conséquences du péché originel repose sur un deuxième point, après l'expérience de la limite de l'autre, c'est que la blessure dont je souffre chez toi, mon conjoint, ou que je t'inflige à toi, mon conjoint, c'est toujours une blessure à l'amour. Facile de le dire, mais vous allez voir que si on le creuse un tout petit peu, ça a un fondement tout à fait intéressant. Dans la conférence qu'il a faite le 20 février 2014 au consistoire, le cardinal Walter Kasper, donc qui était l'ancien président du Conseil pontifical pour la promotion des chrétiens, et qui a fait cette conférence sur l'évangile de la famille, qui a donné lieu à des débats sempiternels qui ne sont pas du tout finis sur les divorcés mariés, puisque dans la cinquième partie de cette conférence, il faisait des propositions pour ouvrir, si on veut, l'accès des sacrements aux divorcés mariés sous certaines conditions. Et bien, dans la deuxième partie de sa conférence, le cardinal Kasper souligne 5 aliénations qui surviennent à cause du péché et qui sont toutes à l'intérieur de la famille. Et c'est très intéressant. Il reprend les 3 premiers chapitres de la Genèse et il dit « Il y a 5 grands lieux où la dignité de l'homme est abîmée et qui sont toutes à l'intérieur de la famille, ces aliénations. » Donc, c'est normal qu'une famille soit attaquée. Et il y en a 3 d'entre elles, de ces 5 aliénations, qui touchent directement le couple. L'aliénation du rapport de l'homme et de la femme, qui après le péché sont marqués par le péché de concupiscence et de domination mutuelle, pour l'homme par la force, pour la femme par la séduction, un péché que la Genèse appelle la honte, Genèse 3, 10, puis le pape Jean-Paul II dans ses catéchèses, ce qu'on appelle maintenant la théologie du corps, a développé ça, la honte de la nudité, de se retrouver mise à nu en face de Dieu, en face de sa propre faiblesse et de sa propre limite, y compris dans l'altérité, qui n'est pas que sexuel, mais qui implique aussi la dimension sexuelle. Donc, le rapport de l'homme et de la femme est abîmé par le péché. Donc, comment vous, qui êtes chrétien et qui êtes homme, du genre humain, pleinement homme et pleinement femme, vous ne seriez pas touché par ça ? Deuxième point, l'aliénation et le conflit au sein de la famille. Kasper souligne que la Bible est pleine d'envie, de querelles, de disputes, et en particulier des infidélités dans le couple, des infidélités dans le couple, qui ne sont qu'une des manifestations de ces conflits. Troisième aliénation au sein du couple, l'aliénation fondamentale de la mort qui touche tous les couples et toutes les familles. Et la mort fait partie de la famille. Moi, j'ai enterré comme prêtre mes 2 parents qui sont enterrés en Bretagne, 2003 et 2011. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu permet qu'une famille qui est là pour la vie, eh bien, elle fasse quasiment nécessairement l'expérience de la mort. La mort du conjoint, la mort des enfants, ce que je ne souhaite à personne d'entre vous, évidemment. Plus facile de perdre ses parents que de perdre ses enfants. Pourquoi ? Quel est le sens de Dieu qui permet à la famille d'être un lieu tellement extraordinaire de croissance de l'amour et un lieu où les brisures peuvent être tellement radicales ? Un couple qui ne se remet jamais de la mort du conjoint. Les personnes âgées, il y en a un qui est malade depuis longtemps qui meurt, l'autre, le conjoint, meurt une semaine après. Parce qu'il ne peut plus vivre tout seul, il se laisse mourir. Ça se comprend. pourquoi la famille qui est le lieu de la vie est-elle aussi le lieu de l'expérience de la mort? Qu'est-ce que Dieu fait à travers ça? Vous voyez, il y a plein de questions quand même. Alors, on ne peut pas plonger dans les racines du péché originel, elles sont dans un lieu où, il y a pas, où nous n'avons pas d'accès. Je me souviens d'un de mes frères qui avait été longtemps en mission, je ne citerai pas le pays, et qui disait, qu'est-ce que tu ferais dans le cas où tu as un jeune qui vient se confesser à toi, et qui a fait vraiment toutes les horreurs, et qui finit à la fin de sa confession par te dire, mon père, j'ai commis le péché originel. Et donc, je dis au frère, bah, tu demandes s'il s'appelle Adam, peut-être. Et est-ce que vous pouvez commettre le péché originel? Non, vous ne pouvez pas commettre le péché originel, parce que celui-là, il est déjà fait. Vous ne pouvez que subir les conséquences du péché originel. Mais qu'est-ce que vous en faites de ces conséquences? Vous ne pouvez pas les restaurer. Et la grâce, et la vie chrétienne, et la prière, et la confession, et l'adoration eucharistique, et la prière du soir en famille et en couple, et tout ce que vous voulez, et le Saint-Sacrement chez vous, ne passera pas par-dessus ces conséquences du péché originel qu'il nous faut conquérir jour après jour au long de toute une vie. Vous voyez, cet aspect du devenir, Dieu est dans le temps, comme un couple est dans le temps, comme l'amour de Dieu qui se donne à nous dans le temps. Alors, j'ai sauté trop vite. Quatrième petit point, je suis presque dans les temps. Non, j'ai encore combien de temps? 10 minutes? 5 minutes? En 10 minutes, j'arrive à finir. 10-15. Ok, j'essaie de suivre. Il faut finir à quelle heure?
C'est 10-15.
Non, il faudrait qu'il y ait quelques questions. Donc, il faudrait qu'il y ait la possibilité de poser des questions. Alors, vous voyez cette grandeur de la confiance que Dieu vous fait, de pouvoir vous construire mutuellement, de pouvoir vous aimer. En tant que chrétien, de pouvoir vous aimer avec, j'allais dire, la toute-puissance de l'amour de Dieu. Et en même temps, cette incapacité radicale qui nous habite et qui vous habite, d'être incapable de répondre aux attentes de l'autre, comment faire pour entrer dans le regard de Dieu sur votre couple? Eh bien, il y a ce que j'ai appelé un appel pour vous en tant que couple à la miséricorde divine. Je commence par ce petit passage de l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 2, 4, 7, Dieu qui est riche en miséricorde, un passage que vous connaissez sûrement, qui est le point de départ de l'encyclique du pape Jean-Paul II sur la miséricorde divine. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Dieu est riche en miséricorde. Sœur Faustine l'a révélé au monde et Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie, s'est fait le promoteur de sa cause à tel point qu'elle a été béatifiée et qu'il a inauguré le sanctuaire de la miséricorde divine à Cracovie. Dieu est la miséricorde. Dieu est celui qui est à la fois le plus grand dans l'amour et le plus attentif à la misère des créatures que nous sommes qu'il essaye d'aimer. Et la miséricorde, elle unit à la fois un véritable amour et un véritable, je ne sais pas comment il faut dire, accompagnement de la fragilité de la personne que j'aime. Tout ce que fait Dieu à l'égard du genre humain, on le voit dans l'Ancien Testament avec tout le grand thème du mariage où c'est le peuple d'Israël qui est l'épouse infidèle que Dieu va venir sauver. On le voit dans le livre d'Osée en particulier, chez prophètes, surtout Isaïe et Jérémie. Dieu se penche sur son peuple qui se détourne de lui et il lui révèle son amour. Dieu se sert des infidélités de son peuple pour lui rappeler quelque chose de plus grand, justement, que Dieu l'aime, sans limite, que l'amour de Dieu n'implique pas de limite. Alors que notre amour, même si vous êtes le couple le plus génial possible et que vous aimez profondément, eh bien votre amour a des limites. Les limites de votre cœur, les limites du cœur de l'autre, les limites de ce que vous savez vous dire, de ce que vous ne savez pas vous dire, les limites du temps que Dieu vous donne pour apprendre à vivre l'un auprès de l'autre ce qu'il veut vous faire vivre. Et puis, si on prend le Nouveau Testament, vous voyez, c'est encore pire que dans l'Ancien Testament. Par exemple, l'évangile de Marc, de Saint-Marc, vous ne le savez peut-être pas, mais il est bâti, ce serait une conférence entière d'une soirée, il est bâti autour de 14 miracles qui sont l'expression de la miséricorde de Dieu qui se répondent deux par deux. Il y a deux groupes de 7 miracles. Et pour comprendre la structure de l'évangile de Saint-Marc, il faut remettre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ligne avec le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et comprendre que 1 et 8, 2 et 9, 3 et 10 donnent la structure de l'évangile de Saint-Marc qui est l'évangile de la miséricorde. c'est l'évangile le plus court, mais c'est celui qui manifeste dans le texte le plus court le plus de gestes de miséricorde du Christ qui sauve le pécheur jusque dans son corps. Et ça, c'est très impressionnant. Et qu'un des évangélistes a choisi comme trame de son évangile les gestes, les 14 gestes de miséricorde principaux du Christ, alors qui ne sont pas tous des miracles de guérison, qui sont aussi d'autres miracles, notamment la multiplication des pains, mais qui sont aussi des gestes de miséricorde. Alors, cet appel en couple à la miséricorde divine, eh bien, il implique, j'allais dire, une seule chair de la Genèse dynamique. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Vous connaissez bien ce passage-là, tiré du livre de la Genèse. Jésus va reprendre ses paroles dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 19 et au verset 5, mais il va les transformer. Les exégètes ont vu que dans la manière dont Jésus va reprendre les paroles, je vous passe tout le détail un peu technique parce que ça nous prendrait trop de temps, il faudrait faire un petit dessin. Mais Jésus va utiliser le premier récit de la création où ce qui est dit à l'homme et à la femme, soyez féconds et multipliez-vous, est la même chose que ce qui est dit aux animaux. Donc on pourrait dire le premier récit de la création place la vocation de l'homme et de la femme à la paternité et à la maternité dans la ligne du règne animal. Nous sommes aussi tributaires de notre histoire animale. Nous avons un corps qui a des besoins, nous sommes liés au monde qui nous entoure, il faut respirer de l'air pour pouvoir, et pas de l'hydrogène pour pouvoir vivre, etc. Et nous avons aussi une sexualité que nous héritons de la dimension de la nature animale ou instinctive qui est en nous. Eh bien, le premier récit de la Genèse dit que l'homme a une continuité avec ce monde animal, en étant au sommet, mais en faisant partie. Alors que le chapitre 2, qui est le deuxième récit de la création, va insister beaucoup plus sur cette complémentarité de l'homme et de la femme, Dieu qui va tirer une côte d'Adam endormi. La Vulgate, le texte grec, va dire que Dieu place Adam dans une extase, et ce sommeil, c'est une extase, il faut que l'homme sorte de lui-même pour entrer en Dieu. Qu'en entrant en Dieu, il va pouvoir recevoir celle que Dieu va mettre à côté de lui, comme son épouse. Eh bien, le deuxième récit de la création insiste sur cette complémentarité plus personnelle et spirituelle. Et Jésus va reprendre les deux récits de la création pour montrer que la vocation de l'homme et de la femme, qui ne font plus deux, mais une seule chair, eh bien, c'est tiré des deux récits de la création. Qu'il faut ces deux regards convergents de Dieu dès l'origine pour comprendre bien l'unité d'amour entre l'homme et la femme. Et c'est une seule chair. Moi, c'est la première question que je pose aux fiancés qui débarquent pour demander une préparation au mariage auprès de moi à Troussure. Je leur dis, expliquez-moi ce que c'est une seule chair. J'en avais deux le week-end dernier qui étaient bien en peine de m'expliquer. Parce que je leur dis, une seule chair, le mot qui est utilisé en grec, c'est la viande. Et en hébreu aussi. Et la viande comme la viande du boucher, quoi. Donc c'est quand même très concret. Donc vous ferez une seule viande, et c'est un peu... voilà. Ça veut dire quoi? Dans votre corps, vous êtes deux. Dans l'union des corps, vous êtes deux. Et si vous voulez donner la vie, vous serez bientôt trois. Donc vous n'êtes jamais une seule chair par l'unité du corps. Donc ça, la réponse à la question, l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère s'attachera à sa femme, j'espère qu'il ne quittera pas sa femme, sinon c'est mal barré. Il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair. Ça ne peut pas être compris dans le sens biologique ou matériel. Il faut le comprendre autrement. Et la compréhension chrétienne de ce « une seule chair » depuis saint Augustin, c'est de dire, là où vous faites une seule chair, ça n'est pas dans votre unité conjugale, physique, sexuelle, si vous voulez, c'est dans le fait que vous êtes tous les deux membres du corps du Christ. Parce que le Christ est la tête de l'Église qui tout entière est son corps, et bien tous les membres du Christ tête deviennent des membres qui forment un seul corps. Et donc ce qui vous unit le plus sous le regard de Dieu, c'est le fait d'être chrétien, d'être croyant, déjà baptisé, et ensuite de vous donner l'un à l'autre le sacrement du mariage, le jour où vous dites oui pour toute la vie. Et donc ce une seule chair, eh bien il est invité à devenir une seule chair dynamique, parce que tous les jours vous construisez cette unité qui vous tourne vers Dieu. Quand on dit au prêtre, j'espère que toutes les messes que tu célébreras seront aussi belles que la première messe, moi je dis toujours, j'espère qu'elles seront chaque jour plus belles que la première messe. Et j'espère bien que le oui que vous dites tous les matins en vous levant, même quand l'autre n'est pas maquillé, ou qu'il revient d'une soirée arrosée avec ses copains et qu'il a un peu la gueule de bois, eh bien que ce oui que vous dites au saut du lit le matin, il est plus beau chaque matin que la veille et que le jour où vous êtes mariés. Parce qu'il y a une croissance dans cet appel à la présence de Dieu dans votre couple, dans tous les bons moments d'abord, mais aussi dans les lieux de fragilité, qui dépend de vous. Donc cet appel à la miséricorde de Dieu, d'inviter Dieu dans tout votre couple, dans ses fragilités et dans ses grandeurs, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre le variateur à 0, à 5, à 10, à 50%, à 70%, soit à 90%, soit à 100%. Et donc ça, ce dynamisme spirituel de mendier la présence de Dieu dans votre couple, y compris dans les disputes, eh bien, c'est un véritable challenge. Comment ne pas choisir spontanément quand l'autre me blesse, de ne pas dire « Oh, l'idiot, il a encore réagi comme ça, je le savais, je l'attendais. » Et quand vous êtes comme ça intérieurement, vous êtes mal barré, quoi. Je savais qu'il allait me dire ça. Je savais qu'elle allait réagir comme ça, en claquant la porte et en partant bouder dans sa chambre. Et bien là, vous n'êtes plus dans ce regard dynamique de vous dire « Est-ce que l'autre peut me surprendre encore en bien ?» On ne peut se surprendre qu'en bien. On peut se blesser en mal, mais on peut ne se surprendre qu'en bien. « Est-ce que je te regarde encore comme celui ou celle qui peut me surprendre ? Est-ce que j'ai le désir de ça ?» Alors vous entrez dans cette expérience absolument incroyable qui est celle du peuple d'Israël et d'avoir été un peuple constamment racheté par la miséricorde de Dieu tout en restant prodigieusement infidèle. Et ça, ça vaut aussi pour le mystère de l'Église. Et donc quand nous lisons ce passage de l'Épître aux Corinthiens, de la première Épître aux Corinthiens 13, 1 jusqu'à même 12, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. » Etc., etc. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. C'est impossible à vivre, ça. Quand vous lisez ça, vous vous dites je vais jamais y arriver, quoi. Mon chéri, est-ce que tu pourrais me dire cette semaine laquelle de ces 12 attributs de la charité j'ai réussi à vivre à tes côtés ? Eh bien, écoute, je cherche. Et en communauté, on peut se dire la même chose. Parce que il nous est pas dit comment nous devons vivre. Il nous est dit comment cet amour que nous recevons de Dieu va prendre petit à petit possession de nous. Et la charité, ce n'est pas ce que moi je vais réussir à vivre avec mes petits bras. C'est ce que le Christ, Sauveur, va imprimer dans mon cœur comme désir de vivre avec toi, mon conjoint, quelque chose qui est bien plus grand que nous. Je vous le dis avec un terme théologique un petit peu provocateur, mais qui est hyper juste. Il y a quelque chose de sacerdotal dans votre amour conjugal. Le prêtre, il est un instrument de plus grand que lui. Il vous donne, au nom du Christ, le pardon des péchés. Il célèbre l'Eucharistie avec vous. Il vous accompagne sur un bout de votre chemin de vie, en vous écoutant, en partageant avec vous, en cherchant avec vous la volonté de Dieu. Mais ce qu'il vous donne, ce n'est pas lui. Lui, il est limité, c'est un pauvre type, il a des défauts, il a une forme d'intelligence, il a des blessures, il a des trous noirs, des choses qu'il ne voit pas, etc. Mais ce que Dieu vous donne à travers lui, ce n'est pas du tout proportionné à la faiblesse du prêtre. On a encore le certificat de fin d'études théologiques du curé d'Ars. L'appréciation de son directeur de séminaire à la fin de ses études de théologie, ça tenait en un mot. Debilissimus. Je ne traduis même pas. C'est le patron de tous les prêtres. Quand vous allez à Ars, il y a une vitalité à Ars, avec le foyer sacerdotal, avec la paroisse d'Ars, avec les pèlerinages, qui est liée à quelqu'un de qualifié de debilissimus par son directeur de séminaire. Eh bien, le directeur de séminaire, il n'est pas béatifié. Peut-être à cause de ça, d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais je ne veux pas prendre position sur des sujets où je ne suis pas hyper compétent. Donc voilà, donc vous voyez, cette petite phrase de la première épître aux Corinthiens, elle vous donne, non pas un idéal, non pas un objectif, mais elle vous donne le regard de Dieu sur ce qu'il vous propose de vivre. Et comme nous ne sommes pas proportionnés dans notre petit cœur à vivre quelque chose qui est bien plus grand que nous, eh bien nous sommes toute notre vie mendiants. Mendiants de ce que Dieu nous propose de vivre les uns avec les autres. Pour t'aimer, toi, mon conjoint, mon époux, mon épouse, j'ai besoin que Dieu me donne la lumière. Parce que moi, je t'aimerais uniquement d'une manière horizontale. Si Dieu me donne la grâce de t'aimer, alors je vais pouvoir t'aimer comme lui t'aime. Je pourrais vous raconter des histoires, mais absolument incroyables. J'ai un copain, j'ai été très longtemps dans notre prieur en Autriche, un couple autrichien, vous savez. Déjà, quand ça a 15 ans, une Autrichienne a 8 ans, elle vous dit « moi, j'aurai 2 enfants ». Parce qu'après 3 enfants, ça coûte trop cher. Donc, la gamine de 8 ans, elle sait déjà que quand elle se mariera, elle n'aura que 2 enfants. Donc, ce couple autrichien, qui sont des très bons amis, ont eu 2 enfants. Puis après, ils avaient construit une maison avec 2 chambres pour les enfants et puis une chambre pour les parents. Donc, c'est dit, notre compte est bon, on a rempli notre devoir d'État. Et puis, elle, donc son médecin tous les deux. Et elle, c'est une fille, elle est à moitié syrienne d'origine, elle a un papa syrien et une maman autrichienne. Et Sandra est une fille absolument géniale, mais hypersensible. Et donc, elle a fait une dépression post-partum, à chaque fois en disant « c'est l'horreur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir à mener mon boulot, parce qu'elle travaille à temps plein, à mener mon boulot avec les enfants. » Donc, son mari Thomas, voyant que sa petite Sandra, à chaque grossesse, était au fond du trou pendant 3 mois ou 4 mois après naissance, s'est dit « là, on court à la cata, maintenant, avec 2 enfants, il faut arrêter. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? ni une ni deux, ça c'est très autrichien, on prend ses responsabilités. L'homme se fait stériliser. Comme ça, pas de danger, voyez, on est sûr du truc. Et puis le problème, c'est que le bon Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ils se sont dit, là, on a, après un an, ils se sont dit, on a peut-être fait une connerie, quoi. Ils sont venus me voir en disant, on ne te l'avait pas dit. C'était des bons copains, hein. On ne te l'avait pas dit, mais voilà le truc. Je dis, non, on ne me l'avait pas dit, effectivement. Parce que peut-être que si vous n'aviez parlé avant, j'aurais dit ce que je pensais. Mais bah, c'était un peu pour ça qu'on n'était pas venu te voir. Voilà, bon. Et alors, ils m'ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi? Vous êtes stérilisé, quoi. Et ils m'ont dit, bah, ouais, mais on se rend compte que le bon Dieu ne voulait peut-être pas ça. Bah, je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez adopter, vous pouvez. Alors, ils m'ont dit, ah non, on ne pourra pas adopter un petit chinois. Vous savez, les Autrichiens, ils sont assez, un but de leur culture, quoi. Il y avait encore l'Empire austro-hongrois présent dans leur tête, quoi. Donc les étrangers, ça va, les Français, ça va, parce qu'on n'est pas encore trop étrangers, mais ceux qui viennent de loin, ça va moins bien, quoi. Donc il dit, ah non, on va pas adopter comme ça. Alors, lui, il me dit, bah, j'ai un bon copain qui est microchirurgien qui pourrait peut-être me réopérer. Alors je dis, oula, là, c'est un truc de ouf, quoi. Et puis il me dit, ça, le problème, c'est que c'est pas la stérilisation, elle est prise en charge par la Sécurité sociale, mais la réopération, ça coûte 4000 euros, c'est pas pris en charge. Alors je dis, bah, allez demander, on sait jamais. Alors, ils y sont allés, puis ils m'ont dit, bah, On prie. Bah, on sent que c'est ça qu'il faut faire. En plus, le problème, c'est qu'ils ont le Saint-Sacrement chez eux. Donc, évidemment, c'est la chambre à côté de la leur où il y a Jésus. Donc, il suffit de mettre leur oreille contre la porte et ils entendent à peu près tout ce qu'il leur dit, quoi. Et bien, donc, ils y ont été, ils s'est fait repérer, puis ils se sont dit, ben voilà, on a presque 40 ans, il faut qu'on recommence comme quand on avait 20 ans, la continence périodique et tout ce machin-là, parce que si ça risque de marcher, on va en avoir d'autres, quoi. Je dis, ben, peut-être qu'il faut que vous renseigniez, savoir ce qu'il faut faire. Donc, ils ont essayé la conscience périodique, et puis, paf, il y a eu un troisième. Et puis, l'année dernière, il y a eu un quatrième. Et ils me disent, un jour, il faudra qu'on l'écrive, l'histoire de notre vie avec le bon Dieu, où, voilà, si nous, on décide, il se passe des choses ben, comme on croit qu'elles se décident. Et puis, en fait, le bon Dieu, s'il nous montre la lumière, il veut quelquefois tout à fait autre chose. Et c'est pas, je vous le raconte de manière amusée, mais ça a donné lieu à pas mal de larmes, de discussions, de conversions. Et c'est un couple quand même assez béni du bon Dieu, mais qui disent, on n'est pas du tout arrivé là où on pensait, quoi. On a le double d'enfants de ce qu'on croyait là, il fallait agrandir la maison, la voiture n'allait plus, l'école ça coûte cher, et voilà, quoi. Cinquième point, le pardon conjugal, l'expérience de la miséricorde infinie de Dieu. Alors là, je vous donne la petite clé de ce que je voulais vous dire ce soir, qui reprend un peu tout ce que je vous ai dit avant, qui est en fait assez étonnant et assez déroutant, je vais essayer de faire très vite. En Exode 25, 17, 22, Dieu demande à Moïse quelque chose de tout à fait étonnant, de réaliser une arche d'alliance dont le couvercle, qui s'appelle en hébreu Kaporet, serait très particulier. Ce couvercle devrait comporter deux chérubins ailés, se faisant face et regardant vers le couvercle. Donc ils sont l'un en face de l'autre, ils ont leurs ailes dressées, et ils regardent la tête en bas vers le couvercle. Le Kaporet en hébreu provient de la racine du verbe kafar, qui signifie couvrir, dans le sens spirituel de couvrir les péchés, aussi d'expier, et qui signifie aussi le siège de la miséricorde. Normalement, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a que deux autels qui servent pour les offrandes des sacrifices. Il y a l'autel de bronze pour les holocaustes, je vous passe les références bibliques, et puis l'autel d'or pour l'encens. Et une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, du grand pardon, le jour de l'expiation, le couvercle de l'arche servait de troisième autel, qui était considéré comme l'autel le plus saint. Et sur cet autel, sur ce couvercle de l'arche d'alliance, le grand prêtre offrait le sacrifice pour ses péchés et pour ceux du peuple. Alors pourquoi je vous raconte ça et qu'est-ce que ça a à voir avec le thème de ce soir? Ça a à voir quelque chose de tout à fait immédiat. Le Nouveau Testament va réutiliser ce symbole qui est en grec, enfin cette réalité théologique de l'Ancien Testament, et qu'on va retrouver dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Hébreux, sous le terme grec « hilasterion ». En Romains 3, 25, on a la petite phrase suivante au sujet de Jésus. Dieu l'a exposé, Jésus, instrument de propitiation. C'est ça la traduction de ce hilasterion. Instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. Dieu voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés comme jadis. Saint Paul aux Romains dit que Jésus, c'est l'équivalent du couvercle de l'arche d'alliance de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire le lieu sur lequel Dieu va, le lieu auprès duquel Dieu va réaliser le sacrifice d'expiation des péchés. Jésus va prendre les péchés du monde sur lui en donnant sa vie pour nous à la croix. L'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 9, 5, 9, 3 et 9, 5, derrière le second voile était une tente appelée le Saint des Saints. Et puis, je saute un verset, au-dessus du tabernacle, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. Propitiatoire, l'endroit où on offrait le sacrifice pour les péchés. Le Christ, dans la Nouvelle Alliance, c'est la victime de propitiation, celui qui donne sa vie pour nous. Ce que les théologiens ont appelé la pro-existence du Christ. Vous voyez qu'on se rapproche de votre vie de couple. La pro-existence, c'est le fait que Jésus n'a jamais vécu pour lui. Jésus a vécu toute sa vie pour ses disciples, pour son peuple, et puis prophétiquement pour toute l'Église. Jésus est mort, non pas pour lui, mais pour nous. Eh bien, il y a quelque chose de ce mystère du Christ dans lequel vous entrez par la vie conjugale, parce que vous ne vivez plus pour vous. Vous le savez bien, surtout quand vous avez des jeunes enfants, ça vous mange tout, un jeune enfant. Ça vous mange votre porte-monnaie. Mon père disait à ma mère, t'en fais pas, ils nous casseront tous nos objets de valeur. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à 5. Donc il disait, ne cherche pas à mettre ça sur une armoire, tu gagnes 2 mois. Mais au bout du compte, les enfants nous prendront tout. C'est ça que vous avez choisi, passivement ou activement, plus ou moins activement ou passivement, de tout donner. Et ça, c'est extraordinaire dans votre vocation. Et ça, le bon Dieu vous en sera un gré infini. Mais ça veut dire que le tout donner et le tout recevoir de l'autre, c'est aussi dans les lieux de souffrance. Vous devenez l'un pour l'autre, celui qui est au quotidien témoin des efforts que fait l'autre pour entrer dans cette vie décentrée, pour ne pas vivre que pour lui ou que pour elle. Et Dieu se sert de vous dans le pardon et dans la miséricorde pour aider l'autre à grandir et à vivre un peu moins pour lui et un peu plus pour vous. Ça veut dire que tous les petits pardons du couple donnés, eh bien, ils entrent dans le grand mystère du Christ. Mais concrètement, et ce n'est pas une image, et ce n'est pas une idéologie de vous dire ça, c'est hyper concret. Chaque fois que vous décidez de vous pardonner, chaque fois que vous décidez de vous regarder avec un regard un peu plus pétri d'amour, eh bien, vous vous dites l'un à l'autre, par des mots ou par le geste de vous pardonner, le Seigneur est présent dans notre couple, et c'est lui qui nous permet, grâce aux faiblesses de l'autre, de découvrir une capacité d'aimer et de faire miséricorde que vous n'auriez jamais découverte. Donc vous n'êtes pas simplement en train de pardonner, vous êtes en train, c'est un gros mot de dire ça, mais je vous le dis en vérité, vous êtes en train de devenir pour votre conjoint le Christ. Et ça, c'est tout à fait unique à vous, les conjoints. Vous avez une manière de vous faire miséricorde dans le couple. Alors après, il y a la manière dont vous allez le vivre avec vos enfants, qui est très proche de celle que vous vivez entre vous. Et vous voyez, qui découle de la qualité de pardon que vous allez vivre en couple. De cette qualité de pardon va découler la manière dont vous allez avoir un regard de miséricorde sur vos enfants, qui vont peut-être pas tous réussir comme vous voudrez, qui vont peut-être galérer dans certaines époques de leur vie, à l'école, dans le sport, dans la débrouillardise, dans je sais pas quoi, la santé. Et à la mesure ou à la démesure de la miséricorde au nom du Christ que vous aurez au quotidien l'un pour l'autre et qui demande d'être reconquise tous les jours, à cette mesure-là, vous apprendrez à avoir le regard du Christ, à conquérir le regard du Christ sur tous ceux qui vous sont confiés. Donc vous voyez que votre vocation d'être époux et d'être épouse, y compris dans les lieux de fragilité du conjoint, y compris dans ces lieux où vous en avez marre de porter la fragilité, ce qui vous énerve, ce que vous n'arrivez pas à lui dire, ce que vous ne savez pas lui dire, ce que vous avez déjà dit 20 fois et qui ne bouge pas, eh bien, vous devenez instrument du Christ pour le conjoint. Et ça, c'est immense. Ça veut dire que, encore une fois, c'est le deuxième versant. Le premier versant, c'est toujours le versant positif. En aimant votre conjoint, vous devenez la présence du Christ pour votre conjoint. Mais en aimant votre conjoint jusque dans ses faiblesses, eh bien vous devenez la présence du Christ jusque dans le mystère où Jésus, en donnant sa vie, nous sauve. Vous vous dites l'un à l'autre en vous pardonnant continuellement dans le couple, je suis prêt à continuer à donner ma vie pour que tu grandisses. Et vous voyez, et pour ne prendre qu'une seule des conséquences, et je fais exprès ce soir de ne pas vous donner des trucs, parce que les trucs vous les inventerez mieux que moi, inventer un rituel du pardon, il y a plein de manières d'inventer un rituel du pardon, mais une manière toute simple, en tout cas, de tirer une petite conséquence de ce que je vous dis là, c'est est-ce que quand je dois te dire quelque chose qui m'a blessé, je te le dis parce que moi, je me dis, ah ouais, alors là, mon vieux, tu m'as dit ça, tu vas te le prendre dans les dents un de ces soirs, mais alors tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. je me mets dans la peau de l'épouse, vous voyez, sûrement parce que c'est plus facile de penser à l'épouse qui en veut à son mari que de se mettre dans la peau du mari que je ne suis pas, mais en tout cas d'être de l'homme qui se dit ben, moi aussi je peux faire un effort pour regarder mon épouse, y compris dans la blessure, différemment. Ou alors est-ce que vous entrez dans le regard du Christ qui veut dire, qui va vous dire, si je dois te dire quelque chose sur ce qui m'a blessé, je ne peux te le dire que pour te faire grandir. Et donc je dois te le dire à l'intérieur d'un regard bienveillant et d'une parole bienveillante qui va faire que tu vas sentir d'abord que je t'aime et qu'à l'intérieur de cet amour, je suis fragilisé. Vous voyez, moi, ça a changé mes relations avec le frère voisin de ma cellule quand j'étais en Autriche. Nous habitions dans un couvent que nous avions construit entièrement en bois. 100% du couvent était en bois. Je ne sais pas si vous habitez ou si vous avez déjà habité dans une maison en bois ou un chalet de vacances. Tout bouge. Le sol bouge, les murs bougent, c'est une maison hyper agréable à vivre, mais c'est assez sonore, quoi. Et donc moi, je travaille la nuit, et donc je travaille la nuit, et donc je tapais à l'ordinateur la nuit, et je sortais les livres de leurs étagères la nuit, quelquefois les livres tombaient par terre, et ça réveillait mon voisin de cellule. Et puis donc, dans un moment qui se fait normalement le jeudi saint, on se demande pardon mutuellement en public, des lieux où on sait qu'on a pu manquer à la charité, au bien commun, etc. Donc moi, je demandais publiquement pardon à mon voisin, et mon voisin, les premières années, donc le frère Johannes Marie me disait toujours « Ouais, la nuit, tu fais du bruit, ça me réveille, après j'arrive plus à me rendormir, etc. » Donc moi, ça me faisait marrer quand il disait ça, puis je ne changeais pas du tout mes manières de faire. Et un jour, on avait décidé tous ensemble, un jeudi saint, de changer notre manière de nous dire les choses, et de nous dire les choses qui n'allait pas que si on était capable de dire d'abord une chose positive. Le frère Yodès Maria, ce jeudi saint-là, m'a dit, ça devait être en 98 ou 99, il me dit, frère Denis, moi je suis émerveillé par ta capacité de travail et par après les conférences que tu arrives à faire grâce à cette capacité de travail que je n'ai pas du tout. Et moi qui suis un pauvre petit oisillon qui habite à côté d'un aigle, eh bien, j'ai besoin d'heures de sommeil qui ne sont pas du tout celles de l'aigle parce que sinon, moi, ma petite capacité de travail... Après, dans la journée, elle est incapable de s'exercer si je n'ai pas dormi la nuit. Alors, quand j'entends tes livres tomber la nuit, je me réjouis d'avoir un voisin qui travaille. Mais moi, ça ne m'aide pas à avoir mon capital de vie limité en acte le lendemain matin. Alors, si tu pouvais m'aider à faire grandir mon petit capital de vie en faisant un peu moins de bruit le soir quand tu travailles, eh bien, ça changerait ma vie. Eh bien, ça, j'ai changé. Vous voyez, je sortais mes livres en faisant un bruit, le moindre bruit possible. Même une souris n'aurait pas entendu le bruit que je faisais, quoi. Alors voyez, est-ce que le pardon dans le couple peut nous emmener jusque-là, que quand je dois te dire ce qui m'a blessé pour qu'ensuite on puisse se pardonner, est-ce que je peux te le dire à l'intérieur d'une attitude bienveillante et d'une parole bienveillante? Ça demande peut-être de ne pas le faire toujours à chaud. Vous voyez, peut-être la maladie ou la difficulté, c'est que si vous voulez toujours régler les problèmes à chaud, eh bien, ça ne sera pas forcément le moment idéal pour avoir tourné votre langue cette fois dans votre bouche et dans votre cœur, avant de trouver une parole qui fasse grandir l'autre. Pour terminer, en guise de conclusion, l'amour conjugal met en présence l'un de l'autre deux êtres absolument incompatibles. Et pour que ces deux incompatibilités deviennent quand même compatibles, il faut que la grâce de Dieu s'en mêle. Deuxième point, la manière dont Dieu s'en mêle, d'une manière extraordinaire, c'est par les blessures que vous vous infligez. Dieu entre dans votre histoire de couple pour y révéler sa miséricorde dans le sens que je viens d'expliquer. À travers la fragilité de l'autre que je continue à porter dans l'amour, je deviens pour l'autre le visage du Christ aimant et miséricordieux qui pardonne continuellement. Et la conclusion, c'est que le pardon dans le couple devient un lieu d'évangélisation, un lieu d'évangélisation de soi-même, de son couple et de tous ceux qui sont autour de nous, de vous, couple, qui voient que le pardon est quelque chose qui se vit et qui porte des fruits. Et pour le dire en une phrase, Dieu se sert de notre fragilité pour nous faire porter du fruit pour son Église. Voilà le défi du pardon chrétien dans le couple, que porter ta fragilité dans l'amour devienne source de vie et de charité et de pardon pour toute l'Église. Alors là, la petitesse de mon cœur, voyez, mise en lumière, mise à nu par la blessure, par la dispute, par les lieux où on n'est pas d'accord, eh bien Dieu s'en sert d'une manière surérogatoire, d'une manière suréminente, comme on disait au XIXe siècle, pour pour transformer complètement votre fragilité et en faire un lieu où vous portez encore du fruit. Alors merci d'être ces couples héroïques qui cherchaient à travers le devenir d'une vie conjugale à entrer dans ce dessein d'amour qui est tellement plus grand que vous et qui est le mystère de l'Église. Et pour vous donner en une phrase un des éléments clés de mon travail de doctorat où vous êtes essentiel, eh bien, l'Église dans l'éternité, elle se mettra à votre école. Et on a du mal à vous donner votre place dans l'Église aujourd'hui, théologiquement. On ne sait pas très bien à quoi vous servez théologiquement, sauf à, quand je dis de manière un peu provocante, à donner vos enfants pour des vocations et votre argent pour que nous, on puisse survivre. Bon, ça, c'est un peu passé comme manière de faire. Eh bien, je crois que l'Église du ciel, même j'en suis sûr puisque c'est dit dans l'Apocalypse, l'Église du ciel, elle sera l'épouse de l'agneau. Et donc, elle devra vivre une vocation d'épouse à l'égard de l'époux qu'est le Christ. Eh bien, dans l'éternité, nous prendrons modèle sur ce que vous avez été sur la terre, comme époux et épouse, pour vivre tous ensemble, comme Église, notre vocation en face du Christ. Alors, au moins dans le ciel, dernier carat, je vous le promets, votre vocation d'époux et d'épouse sur la terre prendra toute sa taille. Et elle commence déjà à la prendre aujourd'hui, cette taille divine, dans toute cette assomption progressive de votre humanité pécheresse en acte de rédemption, saisie par la grâce à travers le cœur de votre conjoint. J'ai terminé. Alors vous voyez, c'est quand même immense hein, ce à quoi vous êtes appelés, et je me réjouis de partager ça avec vous, avec les couples des frères de Saint-Jean-Couple et puis ceux qui êtes venus ce soir. J'espère que ça vous a donné... Ça ne vous a pas donné des trucs, hein. Je n'étais pas là pour vous donner des trucs, mais j'espère vous avoir donné un petit horizon qui vous donne encore plus de souffle pour vivre l'avant. Et l'avant, le temps de conversion, le temps de silence. Apprendre à porter au fond de son cœur aussi les lieux de fragilité, de souffrance, dans l'amour, pour faire grandir ce qu'on aime.